si on fait un petit résumé, là, c'est Joseph en Égypte, ça allait bien, il est dans la maison, ça allait bien en tout cas, il a été vendu par ses frères. On voit qu'il tombe en Égypte, puis Potiphar le prend en charge, mais il le met très haut dans sa maison, là, puis Dieu bénit Joseph. Au milieu de tout ce temps difficile, Dieu bénit Joseph. Puis aujourd'hui, bon, ça allait très bien, mais qu'est-ce qui arrive? La femme de Potiphar a voulu... a tenté Joseph, puis il s'est enfui, puis il l'a jeté en prison, elle l'a jeté en prison, puis Potiphar était comme fâché pour ça, puis il l'a mis en prison. Donc, des fois, c'est difficile, je me mets à la place de Joseph, ça allait bien, bon, il voyait peut-être un espoir, mais là, maintenant, il est en prison, ça n'a pas dû être facile pour lui. J'aimerais maintenant qu'on puisse aller justement dans ce chapitre-là de la Genèse, le chapitre 40, s'il vous plaît, Joseph en prison, chapitre 40. Vous avez tous, ça allait suivre avec moi la lecture, s'il vous plaît, on va lire les 23 versets de ce chapitre 40. Après ces événements, c'est-à-dire quand il a été mis en prison, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon, indigné contre ces deux chambellans, le grand échanson et le grand panetier, les fit aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à la surveillance de Joseph, qui était de service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps aux arrêts. Au cours d'une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve. Chacun les siens pouvait recevoir une explication distincte. Joseph vint au matin vers eux, les regarda et les vit tout tristes. Alors il questionna les chambellans du pharaon, qui étaient avec lui aux arrêts dans la maison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas Dieu qui appartient les explications ? Racontez-moi donc votre rêve. » Et le grand échanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait et lui dit, « Dans mon rêve, voilà qu'il avait un cep de vignes devant moi. Ce cep avait trois sarments. » Quand il eut bourgeonné, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressais dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon. Joseph lui dit, voici l'explication. Les trois sarments sont 3 jours, encore 3 jours et le pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta char. Tu mettras la coupe du pharaon dans ta main comme tu le faisais d'habitude lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et agis, je te prie avec bienveillance envers moi. Rappelle-moi au souvenir de pharaon et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis au cachot. Le grand panetier, voyant que c'était une explication favorable, dit à Joseph, « Moi, dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille le plus élevé, il y avait de tout ce qui fait un panetier pour la nourriture de Pharaon. Or, les oiseaux l'ont mangé dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit en ces termes, « Voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, le pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre en bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, l'anniversaire de la naissance des pharaons, il fit un festin pour tous ses serviteurs. Et il releva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand échanson dans sa fonction et celui-ci mit la coupe dans la main du pharaon. Mais il fit pendre le grand panetier, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Merci Seigneur pour ta parole. Et je te prie Seigneur avec ton Saint-Esprit que tu puisses ce matin nous parler Seigneur et qu'on puisse tous tirer une leçon Seigneur puis un enseignement Seigneur pour qu'on puisse mettre en pratique Seigneur. Merci pour tout ce que tu permets même dans ces temps difficiles de Joseph. Tu voulais lui enseigner, lui montrer ta voie Seigneur, lui montrer ta volonté Seigneur. Merci encore pour ce que tu permets qu'on puisse ouvrir ta Bible et apprendre Seigneur. C'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. C'est assez particulier cette histoire-là en prison. Il y a plusieurs aspects, plusieurs facteurs. Je sais que je m'en vais un peu loin, mais savez-vous c'est quoi un GPS? Je m'en viens un peu à peu. C'est quoi un GPS? Dans ces grandes villes, surtout ici au Canada, aux États-Unis, aujourd'hui, il est impossible de se perdre grâce à l'invention du GPS, à condition d'avoir une adresse et destination. Savez-vous? Vous mettez dans cet appareil-là, c'est un appareil électronique, et vous mettez l'adresse et destination et vous arrivez. La machine vous parle, il vous dit, prends la droite, prends la gauche, c'est bien, c'est magnifique. Et puis le GPS, qui en anglais c'est Global, je ne suis pas bon en anglais, s'il vous plaît, les anglophones ici, Global Positioning System, en tout cas. Tout ça pour dire GPS. Vous comprenez très bien les anglophones. Non. Le GPS est un système de géolocalisation par satellite. Donc, ça vient d'en haut, ce signal-là, pour diriger ce GPS. Il guide les conducteurs vers leur destination. Il suffit d'écouter la voix qui sort de la machine et suivre ses instructions. Très important d'écouter la voix de la machine. Des fois, c'est une femme, des fois, c'est un homme. Ça dépend de votre... Des fois, c'est en espagnol, en français. Vous avez le choix, vous avez l'embarras du choix. Donc, il y a tellement Maintenant, présentement, il y a tellement de modèles de GPS. Et même sur vos téléphones, vous l'avez déjà. Vous n'avez pas besoin d'acheter un appareil. C'est un GPS, en fait. Il faut faire confiance au GPS et suivre ses instructions étape par étape. Il arrive que le conducteur soit distrait ou fasse au contraire les instructions des GPS. Et donc... qu'est-ce qui arrive avec le GPS? Non, il ne se fâche pas. Il vous corrige, il vous dit, en recharge, il dit, donc, attendez, je vous montrerai encore le chemin. Puis il recharge, puis il vous montre encore le chemin. Donc, il corrige. Et c'est difficile de se perdre avec un GPS, des fois. Non, on ne se perd pas avec un GPS. Par contre, pour faire une histoire courte, on était dans une... avec Joël, mon frère Joël n'est pas là, donc ça tombe bien, Joël Guichard, il avait son Jeep, puis il nous amena à la réunion d'anciens dans le bois, là, très loin, la retraite d'anciens qu'on a à chaque année. Puis là, lui, il dépasse la sortie, vraiment, il dépasse la sortie, et puis là, il se trouve au milieu de quelque part, mais le GPS me dit, rien, t'inquiète pas, Ronald. Et Isaac était là, avec Johnny, et puis, t'inquiète pas, Ronald, il va tout nous dire, là. Ok, je dis, bon, fais confiance au GPS. Puis là, le GPS tournait à gauche, tournait à droite, tournait à gauche. Puis là, on était dans un chemin là, bizarre. Là. Puis là, on montait un peu. Puis écoutez, on s'est trouvé au milieu de nulle part, dans le bois, vraiment. Puis c'était juste un chemin très étroit. Pourtant, le GPS il voyait le chemin. Mais nous, on le voyait au GPS, mais c'était juste... À un moment donné, on a arrêté, puis on a dû enlever un arbre pour pouvoir passer. J'étais vraiment stressé, là. Et mon frère Isaac, il est témoin, là. J'ai dit, waouh, on s'est perdu, on est au milieu de nulle part. Il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a rien. Puis les autres anciens étaient en train de nous attendre là-bas, ils étaient déjà arrivés. Puis là, mon seul espoir, c'est que je vois un chemin, là, au bout, là, pour dire, là, l'asphalte est là, mais on ne voyait rien. Au bout de peut-être une demi-heure, on était perdu. Puis là, on voit à un moment donné, le camion, c'était un Jeep. Et Joël était fier. Il me dit, t'inquiète pas, Ronald, c'est un Jeep, là, il n'y a pas de problème. On voit surtout les chemins. J'avais peur, vraiment. Puis là, on descend, puis là, on trouve le chemin, l'asphalte. Oh, j'étais soulagé. Mais j'ai dit, jamais un GPS. Écoute, je vais prendre ma map, et puis je prendrai moi-même la route. C'est vrai, on ne se perd pas, mais il faut faire attention. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de GPS par satellite, OK? Mais je vais vous parler plutôt, peut-être pour faire une introduction, GPS spirituel. Comment vous voulez l'appeler, un GPS spirituel? Guidé par le Seigneur? GPS, je ne sais pas, guidé par le Seigneur? Et Dieu, mais ça vous fait rire, mais Dieu a vraiment préparé un GPS pour ses enfants afin de les guider à leur destination. Quelle est notre destination comme enfants de Dieu? Le savez-vous? Philippiens 3:20 dit, mais nous sommes citoyens des cieux. Amen. Nous sommes sur le chemin des cieux vers la cité que Dieu nous a préparée. Éphésiens 2:6. On a une destination, nous, comme chrétiens. Malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent la présence de ce genre de GPS. Ce que la Bible en parle, oui, la Bible en parle, certainement, dans Romains 8:14.
Il dit, il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, le Saint-Esprit, c'est notre, on peut dire, notre GPS céleste, spirituel. Si nous apprenons son langage et suivons ses instructions, il est rare de se perdre. Même quand on se perd, il nous demandera de nous reconduire afin de retourner sur la bonne voie. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, sur les enfants des dieux. Mais où sont ces instructions-là? Ces instructions-là se trouvent dans la parole de Dieu. C'est grâce à son esprit que Dieu, qui habite en nous, qu'on peut comprendre vraiment et discerner tout ce que la parole de Dieu dit de faire, nous dit de faire. Et justement, ce matin, mes frères, j'aimerais qu'on puisse voir dans la parole de Dieu, dans ce chapitre 40 de la Genèse, trois aspects par lesquels Dieu se manifeste à Joseph. Pourquoi j'ai parlé des GPS? Parce que, étonnamment, j'étais en train de préparer le message et j'ai tombé sur trois aspects dans la vie de Joseph, qui s'est manifesté dans la vie de Joseph, surtout dans ces chapitres-là. Et j'ai trouvé sa grâce. Par sa grâce, Dieu fit obtenir la faveur du chef de la prison. Sa puissance. Par sa puissance, Dieu permet que Joseph donne l'explication du rêve au chef de boisson et au chef de boulanger. On peut les appeler aussi les chansons puis le panetier. Et par sa souveraineté, Dieu permet que Joseph, tout d'abord, soit en prison. Il permet que le grand échanson soit rétabli dans sa fonction, puis il fait pendre. Parce que Dieu, c'est Dieu qui permet ça. Que l'échanson soit épargné, puis le panetier soit pendu. Et il permet aussi que l'échanson oublie, dans sa souveraineté, il permet que cette échanson oublie Joseph, temporairement, par exemple. Temporairement, mais trois choses dans ce chapitre. Sa grâce, sa puissance, sa souveraineté. C'est pour ça que j'ai parlé de GPS. Grâce, puissance, souveraineté. Peut-être que ça nous aide à pouvoir nous rappeler la grâce de Dieu, sa puissance et sa souveraineté. Donc maintenant, oublions le GPS. Puis on va aller sur le verset, vous avez tous vos Bibles. Verset 1 à 8, la grâce de Dieu avec Joseph. Vous savez, le proverbe 16:17 dit, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même quoi? Même ses ennemis. » Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Pour comprendre bien la grâce de Dieu dans la vie de Joseph, surtout dans cette situation-là, il faut reculer vraiment au chapitre 39, du verset 21 à 23, puis on va voir vraiment la grâce parce que ces chapitres-là nous parlent déjà du fait que Joseph est déjà en prison. Si vous reculez dans le chapitre 39, là vous allez lire dans le verset 21 à 23, l'Éternel fit avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il fit obtenir la faveur du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qu'il faisait passait par lui. Wow! Joseph avait quand même, il avait placé dans un rang quand même haut là. Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel, qu'est-ce qui faisait la différence? L'Éternel était avec lui. L'Éternel faisait réussir ce qu'il faisait. C'est la grâce de Dieu dans la vie de Joseph. C'est juste par sa grâce. Versets 1 et 2. Vous voyez, c'était pas seulement un simple boulanger ou panetier ou simplement un simple chargé de la boisson qu'on appelle ici un échanson. C'était le responsable des boissons, le responsable des échansons et le responsable, le chef des panetiers. C'était pas n'importe quoi qui était en prison là. Ils étaient tout près du roi d'Égypte. Et puis là, on voit dans le verset 2, ils offensèrent, ils péchèrent contre le roi d'Égypte, le Pharaon. Le mot offensèrent, c'est vraiment péché. Quand la Bible en parle de péché contre Dieu, c'est vraiment ce mot-là. Donc, ce n'était pas n'importe quoi qui avait fait ces deux personnes-là. Ils ont péché contre Pharaon. Donc, c'était grave ce qu'ils avaient fait. Ils méritaient même peut-être la mort plus tard. On ne sait pas. La raison de leurs offenses, on ne sait pas c'est quoi. Pourquoi ils ont été mis au cachot, on ne sait pas. Mais une chose on sait, c'est qu'ils méritaient d'être là. Et pourquoi permet Dieu cela? Pourquoi Dieu permet que ces deux personnes-là, hauts fonctionnaires, qu'on peut les appeler aussi auprès des pharaons, pourquoi Dieu permet que ces deux personnes soient là? Vous savez, le verset 3, il dit, au même endroit où Joseph était. Dieu, par sa grâce, préparait déjà tout. Il a permis que ces deux personnes, et c'est curieux de voir que dans le verset 3, il dit, vraiment, il prend la peine, au même endroit où Joseph était. Par sa grâce, Dieu permet que ces deux prisonniers soient avec lui. Ils passèrent un certain temps auprès de Joseph aussi, le verset 4. D'ailleurs, il était le responsable, le chef de la prison, il avait mis comme responsable Joseph pour ces deux personnes-là. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il était là. Peut-être pour apprendre le fonctionnement de comment ça a marché en Égypte. C'était deux hauts responsables auprès du Pharaon. Donc, peut-être c'est dans sa grâce, Dieu permettait ça. Parce que ce n'était pas quelques heures qui ont passé avec Joseph, quelques temps, la Bible en parle. On ne sait pas si c'était des semaines, des mois, mais peut-être suffisamment pour qu'il puisse parler avec Joseph. Parce qu'on le voit plus tard. Nous, on peut le voir. Joseph, il ne pouvait pas voir ça. Mais on voit plus tard que Dieu rétablit Joseph, puis le mit vraiment à côté, un petit peu plus bas que Pharaon, pour sauver son peuple, pour que le peuple d'Israël puisse être épargné de tout ce qu'il venait. Mais ça, on va voir dans le chapitre 41. Donc, on voit vraiment la grâce de Dieu dans la vie de Joseph. Si on regarde le verset 3 et 4, dans sa grâce aussi, Dieu permet que Joseph soit auprès de ces deux personnes. La même nuit, le chef des boissons, versets 5 à 8, la même nuit, le chef des boissons et le chef des boulangers font un rêve pouvant recevoir une explication. Non seulement Joseph est témoin de la grâce de Dieu, mais il fait grâce aussi aux autres. Il les regarda tristes, il dit. Pour remarquer vraiment quelqu'un qui est triste dans une prison, là, je pense que dans une prison, pas tout le monde est content. Hein? Je pense que tout le monde est triste. Et pour que Joseph puisse remarquer ça, là, c'est parce que quand même, il avait peut-être passé, il connaissait déjà. Puis il regarda, puis Joseph, c'était pas quelqu'un qui restait en prison, puis il boudait, il s'est plaignait, il disait, mais pourquoi je suis innocent? Moi, je suis innocent, il plaidait sa cause. Non, je pense que Joseph, même dans cet état-là, il donnait un bon témoignage. Même le chef de prison l'a mis en haut rang aussi, même dans la prison. Puis il l'a mis comme responsable. Puis en plus de ça, Joseph prend la peine de pouvoir parler à ces deux personnes-là. Il est bon, il s'approche de eux, il dit, « Pourquoi vous avez l'air triste ?» Et là, il donne la raison. « Nous avons fait un rêve, il n'y a personne pour l'expliquer. » En Égypte, les rêves étaient très importants culturellement. Okay? Pour faire une interprétation, là, il fallait y avoir un prêtre, okay? Un prêtre pour interpréter les rêves. Et dans la prison, je pense que ces deux personnes-là étaient en prison, en plus, puis ils ne pouvaient pas avoir accès à ces prêtres-là. Donc, c'était important pour eux savoir la signification de leurs rêves. Mais la seule personne qui était là, c'était Joseph. Et Dieu permet dans sa grâce toute cette situation-là. Versets 8 à 19, la puissance de Dieu avec Joseph. 8 à 19. Joseph leur dit, n'est-ce pas Dieu, à Dieu qu'appartiennent les explications? Voilà la puissance de Dieu qui, à lui, qui appartient les explications. Ce n'est pas Joseph, là, c'est vraiment Dieu qui avait donné cette explication. Il dit, racontez-moi donc vos rêves. Puis là, vous voyez, du verset 9 à 13, le rêve du grand échanson, du chef des boissons, il dit, le cep des vignes devant moi, le cep avait 3 sarments, et il y avait des grappes, il donnait des raisins mûrs, et la coupe des pharaons était auprès de moi. Et j'ai pris les raisins, je les pressais, et j'ai donné dans la main de la coupe, la coupe dans la main du pharaon. Et donc Joseph, il entend tout ça, il dit, bon, ah, écoute, je vais voir 3 raisins, 3 ça. Attends une minute là, je vais y penser, je vais réfléchir. 3, ça fait... Non, il a dit tout de suite, voici l'explication, on voit là vraiment la puissance de Dieu qui a révélé ça à Joseph. Les 3 sarments sont 3 jours ici. Encore 3 jours et le pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du pharaon dans sa main comme tu le faisais d'habitude. Tout de suite, le rêve était expliqué. Je ne sais pas c'était quoi la réaction des gens, mais il y a une pétition quand même de Joseph au milieu de tout. Je pense que Joseph déjà voyait la main de Dieu là-dessus. Puis là, il demande à cette échanson, il dit, dans le verset 14 et 15, il dit, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Souviens-toi. Souvent, on oublie, hein? Quand on est heureux, on oublie. Et Joseph prend la peine de lui dire, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Agis, je te prie, avec bienveillance envers moi. Parle au pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Joseph était quand même éprouvé. Il souffrait quand même en prison, mais ça ne l'empêchait pas d'aider les autres. Mais il comprenait, et puis il disait, bon, peut-être si j'en parle avec cette personne-là, Dieu pourrait permettre de me faire sortir, car j'ai été enlevé. Il ne dit pas juste, j'ai été vendu. Hein? On voit déjà dans le cœur de Joseph un certain pardon vers ses frères. Il ne dit pas, ils m'ont vendu, mes frères, non. J'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis au cachot. Vous comprenez très bien pourquoi. Il n'avait rien fait. Il était innocent. Il a laissé ce événement. Il est sorti en courant pour ne pas pécher contre Dieu. Il était innocent. Puis il demande à l'échanson de l'aider. On voit plus tard que l'échanson oublie, mais pas pour longtemps, ou pour un temps en tout cas. Voici le rêve du panetier, verset 16 au 17. Voyant que c'était une explication favorable, il dit à Joseph, oh, le panetier était encouragé, hein? Il dit, wow, il a dit, il va être rétabli dans 3 jours. Voici mon rêve, là. Puis là, le panetier commence. 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait de tout pour faire manger le pharaon. La nourriture des pharaons, oh, les oiseaux la mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Tout de suite, encore une fois, Joseph, il dit, versets 18 à 19, « Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et le pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre en bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Joseph, il ne va pas par 4 chemins. Il n'essaye pas d'adoucir la mauvaise nouvelle. Il est vraiment clair avec lui, comme il était avec ses frères. On ne voit pas un Joseph, si vous vous rappelez, quand il dit le songe à ses frères, il ne voit pas un air, comment je peux dire ça, orgueilleux devant ses frères. Non, il raconte son rêve vraiment de façon naturelle, sans aucune arrière-pensée, rien du tout. Là. Puis dans ces cas-là aussi, il n'essaie pas d'adoucir le rêve. Il dit tout de suite, c'est Dieu qui me montre ça, puis là je te le fais savoir, exactement comme Dieu me l'a révélé. Puis là il dit, tu vas être... Il aurait pu dire, bon, peut-être tu vas mourir. Joseph, il savait, hein, mais il aurait pu lui dire, tu vas peut-être mourir, il va y avoir une forte épreuve dans ta vie après 3 jours. C'est déjà pas pire, non? Peut-être j'aurais dit ça, mais Joseph a dit, non, tu vas être pendu dans 3 jours. Je ne sais pas si le chef des panetiers croyait vraiment en ça, mais il prenait une chance de demander à Joseph son rêve, parce qu'il était vraiment désespéré. Puis on voit cette puissance de Dieu qui, plus tard, on peut voir que tout ça s'accomplit. La puissance de Dieu qui donne ça à Joseph. On voit aussi, on a vu avec Richard que l'Esprit de Dieu était en Joseph. Daniel témoigna, vous vous rappelez de Daniel? Lui aussi, il a interprété des rêves. Il témoigna de la puissance de Dieu. Ainsi, Daniel prie et dit. Parce que, à différence de Joseph, Daniel prend le temps de prier à Dieu différemment. Puis, Daniel dit, quand Dieu révèle le rêve, il dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. » C'est de lui qui vient le pouvoir d'interpréter ces rêves-là. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. C'est Daniel encore qui dit. Et le roi, il dit, après avoir entendu la signification des rêves, il dit à Daniel, le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il relève les secrets puisque tu as pu découvrir ces secrets. » C'était même pas Daniel, c'était vraiment Dieu. Il loue Dieu pour la force, pour la puissance de Dieu, pour sa puissance manifestée dans la vie de Daniel. Et dans ces cas-là, en Joseph. Donc, on a vu la grâce de Dieu, maintenant la puissance de Dieu. Puis, on va passer au verset 20 à 23, la souveraineté de Dieu avec Joseph. On s'arrête au verset 20. Le troisième jour, jour d'anniversaire de la naissance de Pharaon, il fit un festin pour tous ses serviteurs, et il releva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier. Donc, on dirait que ça va bien pour les deux. Non? Il releva la tête, on dirait que ça... Si on arrête là, on dirait, bon, peut-être il les a fait sortir, mais il rétablit le grand échanson dans sa fonction. C'est lui mit la coupe dans la main de Pharaon, et il fit pendre le grand panetier. Selon quoi? Selon l'explication que Joseph leur avait donné, selon le verset 22, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Et cette explication venait de qui? Venait de Dieu même. C'est Dieu même. Par sa souveraineté, il a fait... C'est qui a décidé ça? C'est Pharaon? Non, c'est Dieu même qui avait déjà prévu à l'avance qui allait mourir. Il allait épargner les chansons, puis il allait faire pendre le panetier. Pourquoi ne pas avoir donné un rêve Dieu à Joseph, juste en lui disant, bon, tu vas être libéré dans quelques temps. Pourquoi pas donner Dieu? Pourquoi n'a pas permis Dieu ça, là? On ne sait pas. Dieu est un Dieu souverain. Il aurait pu donner un rêve à Joseph en lui disant, bon, dans 3 jours, tu vas être libéré ou quelque chose. Non, il a tout permis ça dans sa souveraineté, avec un but. Pourquoi faire mourir le boulanger et n'est pas le responsable des boissons? À cause de sa souveraineté. Et puis, on voit là dans le verset 3, le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Dieu est souverain et permet ainsi que le chef des boissons oublie Joseph pour un temps. Dieu est souverain. Mais ça me fait penser, en suivant cette étude-là de Joseph jusqu'à aujourd'hui, on voit incroyablement comment Joseph est un type de Jésus-Christ. Richard l'a aussi mentionné. Il y a plusieurs aspects qu'on voit. Nous, comme enfants des yeux, maintenant qu'on voit la parole, on a toute la parole, on a toute la révélation. C'est bénissant pour nous savoir comment Dieu, comme un GPS, nous guide. Il guide tous les événements, soit mauvais à nos yeux, soit bons, mais il guide tous les événements pour un seul but dans la vie de Joseph dans ces cas-là. On voit et qu'il aimait de son père, comme Richard l'a mentionné, il haït de ses frères, sa tunique de couleur, vendue pour quelques pièces d'argent. Un peu comme ça nous fait penser à Jésus-Christ. Tenté, il a répondu aussi par la parole de Dieu. Joseph était tenté, qu'est-ce qu'il a répondu? Je pécherai contre Dieu? Quand Jésus-Christ a été tenté 3 fois, il répondait avec la parole de Dieu. De la même façon, Joseph... humble, bon, intègre devant Dieu. Puis dans ces fois-ci-là, en prison, comme notre Seigneur, habitué à la souffrance, il souffrait, Joseph, accusé injustement, comme notre Seigneur Jésus-Christ. Encore plus frappant, entre 2 accusés. Vous vous rappelez la scène du Seigneur, le mauvais et le bon, qu'on peut dire, les brigands, les deux qui étaient condamnés à mourir sur la croix. Puis on voit entourer Joseph de ses bons, et c'est ce gars-là qui Dieu a épargné, et l'autre qui n'a pas épargné. Dieu a sauvé le bon brigand, puis il n'a pas permis que l'autre croie en lui. C'est sa souveraineté. On voit toutes ces images-là, tous ces échos de la venue du Messie. 3 jours, vous voyez comment ça se répète, 3 jours par là, 3 jours par ici, tout sera élevé. Même les paroles, encore plus étonnantes, les paroles de Joseph, quand il dit, « Souviens-toi de moi quand tout ira bien. » Vous vous rappelez le brigand qui dit, « Souviens-toi de moi quand tu seras au paradis. » Quand tu seras. Et il dit, qu'est-ce qu'il dit Jésus ? En vérité, tu seras avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui même au paradis. On voit vraiment ces aspects-là que nous maintenant, nous comme enfants de Dieu, on peut voir vraiment. Et de là qu'on peut savoir que la parole de Dieu a été écrite pour notre instruction, pour qu'on puisse apprendre de tous ces personnages, de tous ces gens-là qui ont vécu par la foi. C'est vraiment frappant les paroles de Joseph. Souviens-toi de moi. Par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ qui a souffert pour nous. Il a payé la dette de nos péchés. Il nous a fait grâce, comme on a vu tantôt. Il a fait grâce dans nos vies. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Sauveur, s'il vous plaît, venez nous voir. Puis, Jésus est mort par sa grâce. Dieu est un Dieu des grâces. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour payer, pour se donner pour nous, ou sur la croix, gratuitement, sans le mériter. Jésus est mort pour nous. Ça, c'est l'Évangile. Donc, c'est ça, la bonne nouvelle. Et donc, je vous invite, si jamais vous n'avez pas pris cette décision-là, venez nous voir, parlez avec quelqu'un, un chrétien, mais partez pas. Comme le panetier, il lui restait 3 jours, il ne savait pas, il allait mourir. Partez pas, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec nous. On ne sait pas si demain, on sera encore ici. Mais le verset 23, si on revient au chapitre 40, le grand et chanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Est-ce que Dieu avait oublié Joseph? Pourquoi vous dites ça? Parce que vous avez déjà lu le chapitre 41. Il n'avait pas oublié Joseph. Joseph se sentait oublié? Peut-être. Peut-être il se sentait oublié. Mais d'après ce que je vois, il avait peut-être un espoir qu'un jour il serait libéré. Ça m'a fait toujours penser ce chapitre 37. Je vais moi juste revenir là-dessus. Vous rappelez quand Joseph raconte le rêve à ses frères, il dit, et voilà, ma gerbe se dressa et s'éteint debout. Ils racontèrent son rêve et ses frères lui dirent, est-ce que tu prétends régner sur nous? Et dans le verset 9, il dit, il fit encore un autre rêve, il raconta à ses frères. Innocemment, il raconta à ses frères, dit, et voilà, j'ai encore fait un rêve, le soleil, la lune, et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. C'est Joseph qui était en train de dire, pensez-vous pas qu'il était en train, en même temps qu'il était en train d'interpréter les rêves à les chansons au panetti, il ne pensait pas à ça? Je pense que oui, puis... Peut-être qu'il avait un espoir en Dieu, mais il ne savait pas. Il ne savait pas qu'est-ce qui arrivait. Il était en prison, il ne savait pas vraiment. Mais le verset 11, là, ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident dans son cœur. Vous avez fait penser à Marie un peu, quand il gardait tout ça dans son cœur par rapport à son fils Jésus. Et si son père gardait ça dans son cœur, je pense qu'encore plus Joseph, il gardait ça dans son cœur. Il y avait peut-être un espoir que Dieu allait sortir de là et faire accomplir le plan dans la vie de Joseph. Mais les chansons oublient Joseph, mais Dieu n'oublie pas Joseph. Est-ce que vous vous sentez oublié? Des fois, oui, on se sent oublié. Vous savez, Ésaïe 49, 13 à 15 dit, « Cieux, acclamez, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez et acclamions. en acclamation, car l'Éternel console son peuple, il a compassion de ses malheureux. Si on disait l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie, est-elle un nourrisson? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Le Seigneur ne nous oublie pas. Plus tard, nous voyons, on peut voir Étienne, plus tard, après qu'il raconte ce que Joseph a vécu, dit dans Acte 7, 10, « Mon Dieu fut avec lui. » C'est Étienne qui est en train de parler. Et il est en train de parler de Joseph. « Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. » Le Seigneur ne nous oublie pas. Plus tard, on va le voir. Si on commence à lire le verset 1 du chapitre 41, deux ans après, voilà le rêve de Pharaon. Et voilà les chansons pour un hasard de Dieu. Il se rappelle. Il dit, « Oh, je connais quelqu'un. » Oui, mais je vais pas tomber sur le message de Richard. Donc, on arrête là. Mais on voit vraiment que Dieu fait grâce encore à Joseph. C'est sa fidélité, vraiment. Dieu est un Dieu fidèle. Il ne nous oublie pas. Nous, on l'oublie, par exemple. Mais il n'oublie pas ses enfants. Ça fait 2 jours que vous souffrez. Ça fait 2 semaines que vous souffrez et que vous n'avez pas solution à votre problème. Ça fait 2 mois que vous ne parlez pas à votre mari ou à votre femme. Ça peut arriver, vous savez. Ça fait 2 jours que vous êtes en chicane avec votre ado. 2 semaines. Ça fait 2 ans que vous cherchez du travail. Je ne sais pas. Chacun de nous a des problèmes ou des épreuves dans leur vie. Mais je vous dis, mes frères, et je me dis à moi-même, Dieu ne nous oublie pas. Il use de patience envers nous. Il veut nous montrer quelque chose. Mais n'oublie pas une chose, qu'on a vu au moins 3 choses qu'on a vues aujourd'hui. Sa grâce, sa puissance et sa souveraineté. Amen.